Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Salut, salut! Ici Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Aujourd'hui, je veux parler de zéro dette, la philosophie Dave Ramsey. Je vous explique un peu ce dont je veux parler aujourd'hui. Est-ce qu'on doit s'endetter ou est-ce qu'on doit éviter les dettes à tout prix ou est-ce que c'est un entre-deux qu'on doit aller chercher pour vraiment être en sécurité, mais aussi pour prospérer financièrement. Dave Ramsey, c'est quelqu'un de très connu aux États-Unis qui a une émission de radio depuis au moins 30 ans. Il fait 3 épisodes de podcast par jour, en plus qu'il soit diffusé vraiment à la grandeur des États-Unis. La philosophie de Dave Ramsey, c'est que vous devriez éviter les dettes à tout prix. Ce qui fait marcher sa business, c'est son approche des dettes qui est vraiment, vraiment différente de ce qu'on entend aujourd'hui, de ce qui est la norme, en fait, en Amérique du Nord depuis de nombreuses années. La dette est utilisée à plusieurs sauces. Il y a beaucoup qui disent on devrait utiliser l'argent des autres, on devrait vraiment utiliser l'effet de levier au maximum. Mais Dave Ramsey, lui, c'est quelqu'un qui a fait ça quand il était jeune. Il s'est acheté plein d'immeubles. Il y avait un parc immobilier qui valait 3-4 millions et un jour, l'économie a tourné, les banques se sont mis à rappeler ses prêts et il a quasiment fait faillite, ou il a fait faillite, en fait, je ne me rappelle pas exactement son histoire, mais depuis ce temps-là, il a complètement changé sa façon de voir et ce qu'il enseigne maintenant et ce qu'il rend très populaire, c'est de dire aux gens de couper leur carte de crédit, d'éviter les dettes pour les voitures, d'éviter les dettes d'études. Je fais le parallèle avec moi, mon expérience en finance personnelle, mon cheminement vers l'indépendance financière. Je fais le lien avec mes derniers épisodes sur l'épargne. Je veux parler de c'est quoi une bonne dette, c'est quoi une mauvaise dette. Premièrement, pré-étudiant, est-ce que c'est une bonne dette ou une mauvaise dette? Idéalement, on voudrait terminer ses études sans dette. Dans certains cas, ça peut être bénéfique d'aller s'endetter pour étudier, surtout s'il y a un degré de certitude d'avoir un bon revenu quand on va sortir de l'école. Au Québec, on a un bon système d'éducation subventionné par le gouvernement. Donc, ça fait en sorte que c'est pratiquement pas nécessaire d'aller chercher une dette pour aller étudier. L'éducation est pratiquement gratuite. Les frais de scolarité sont très bas. C'est pas comme aux États-Unis où beaucoup veulent aller dans une université très réputée pour être certain d'avoir une grosse job en sortant, où est-ce que l'éducation à ce moment-là va coûter très, très cher. Et puis, souvent, il faut aller chercher des dettes étudiantes, un prêt étudiant ou avoir vraiment l'aide des parents pour être capable d'aller dans les meilleures universités aux États-Unis. Au Québec, c'est pas tant le cas. Oui, ça peut être contingenté. Il faut avoir les notes au secondaire, au cégep pour rentrer dans certains programmes, mais l'argent est moins un critère au Québec. Pour ma part, mon expérience personnelle avec les prêts étudiants, oui, j'ai emprunté un peu quand j'étais à l'université, surtout parce que, bon, j'étais pas aussi conscient de l'importance de l'épargne à ce moment-là. J'ai voulu aller en Europe pendant 3 mois et puis, évidemment, j'avais pas tant d'argent, j'ai eu plus de dépenses à ce moment-là. Et puis, quand je suis allé à l'Université de Sherbrooke, j'ai emprunté un petit peu, mais principalement, j'ai travaillé, en fait, pendant mes études. Donc, j'ai travaillé dans un club vidéo, j'ai fait des stages en informatique dans mon domaine d'études pour m'appuyer dans mon financement, pour payer mon logement à Sherbrooke. Puis, ça a fait en sorte que j'ai pratiquement pas eu de dette quand je suis sorti de l'université. Tout était déjà presque remboursé et puis ça m'a parti du bon pied. Donc le danger, c'est d'aller s'endetter en se pelletant par en avant les problèmes qui pourraient subvenir puis en se disant la vie est courte, aussi bien en profiter maintenant. Puis si on se met à dépenser et sortir et se payer du luxe alors qu'on est étudiant, pour moi, c'est pas une bonne façon de commencer sur la bonne voie financière. Donc, je préconise l'idée de sortir de l'université sans dette. Aucune carte de crédit permise. Pour moi, au Canada, la carte de crédit est nécessaire parce que c'est vraiment notre façon de payer en ligne, hein, c'est plus difficile de payer avec, par exemple, son compte, sa carte de débit en ligne. Au Canada, le système financier est fait comme ça, tandis qu'aux États-Unis, c'est un petit peu plus facile de faire des achats en ligne avec sa carte de débit. Il y a un autre système, tandis que nous, puis en fait, la carte de crédit aussi, elle a l'avantage que ça fait un niveau supplémentaire de sécurité, selon moi, quand on achète en ligne ou on fait des achats importants. On peut toujours aller contester un achat si quelqu'un prend notre numéro. On peut aller voir notre compagnie de carte de crédit, dire qu'il y a eu une fraude. Ça fait un buffer avant que l'argent soit pris de notre compte. Il faut nous-mêmes payer notre carte de crédit. Donc, pour moi, c'est un niveau de sécurité supplémentaire de pouvoir payer avec sa carte de crédit. Évidemment, on rembourse le solde au complet à tous les mois. Il n'est jamais question de laisser un solde sur notre carte de crédit. Je n'utilise pas ma carte de crédit aussi comme coussin de sécurité, c'est-à-dire comme fonds d'urgence. Donc, le fonds d'urgence, c'est important d'en avoir un. Puis, beaucoup, beaucoup de gens se fient sur leur marge de crédit, carte de crédit, pour le fonds d'urgence, alors que moi, je préfère avoir quand même un coussin en cash, en vrai cash dans un compte quelque part qui sert de fonds d'urgence au cas où il arrive une urgence. Donc ça, c'est pour la carte de crédit. Puis Dave Ramsey, il dit, coupe la carte de crédit, utilise zéro carte de crédit, on dit, tenez-vous loin. Il y a le phénomène qui fait en sorte que, justement, vu que la carte de crédit, c'est une étape plus loin, hein, que notre compte de banque. Le compte de banque, c'est là qu'on a notre argent, notre chèque de paye rentre dans notre compte de banque. Acheter quelque chose à partir de notre propre argent dans notre compte de banque, c'est une chose. Acheter quelque chose à partir d'une carte de crédit, c'est une autre chose. Psychologiquement, il y a un degré de distance qui fait en sorte qu'on dirait que ça fait moins mal de faire une grosse dépense sur notre carte de crédit que sur notre compte de banque. Alors, pour cette raison, moi, je préfère passer en premier par mon compte de banque pour faire une dépense. Ça me le fait réfléchir deux fois avant d'acheter quelque chose. Une carte de crédit, oui, parfois en ligne, on n'a pas le choix, il faut passer par là. Puis étant donné qu'il y a justement le phénomène que je viens de dire, c'est-à-dire la distance qu'on a avec on dirait que psychologiquement, ça fait moins mal, l'achat nous fait moins mal que si on le prend avec notre propre argent. Reste que si on fait un achat avec une carte de crédit, c'est comme faire un achat avec notre propre argent parce qu'on va normalement rembourser la carte de crédit le mois suivant. Donc, ça revient du pareil au même. Mais psychologiquement, il y a quelque chose avec le crédit qui fait en sorte qu'on peut être porté à dépenser plus. Donc, pour cette raison-là, je rejoins Dave Ramsey qui dit, lui, regardez, la finance personnelle, c'est 80% habitude et 20% mathématiques. Puis, pourquoi pas se donner le plus de chances possible en évitant complètement les cartes de crédit? Puis, je comprends pourquoi que lui dit ça à ses auditeurs. Puis, je comprends pourquoi que sa technique de se sortir de la dette fonctionne. C'est des techniques drastiques, c'est des façons drastiques de penser en se disant, OK, on va éviter le crédit complètement. Et c'est certain que ces façons de faire-là vont faire en sorte que nos finances vont aller mieux parce qu'on va prendre des meilleures décisions de dépenses par la suite si on n'utilise pas la carte de crédit. C'est un phénomène psychologique qui fait en sorte qu'on dépense plus. Donc, la seule dette permise, j'en ai parlé aussi dans l'intro, c'est l'hypothèque pour la résidence principale. En fait, Dave Ramsey vous dit pas d'éviter vraiment toutes les sortes de dettes, quelles qu'elles soient. Il dit vraiment, oui, OK. Ça peut être une bonne chose d'utiliser la dette, donc l'hypothèque pour acheter sa résidence principale au lieu de donner notre argent à un propriétaire. Évidemment, là, il donne des barèmes stricts, donc idéalement, mettre son prêt sur 15 ans, hein, tandis que nous, au Canada, on est plus sur 25 ans. Normalement, c'est vraiment la norme quand on achète, puis on va peut-être même mettre moins que 20 % de mise de fonds. On va prendre un prêt assuré à la SCHL ou Canada Guarantee ou par un assureur, un des trois assureurs prêts. On va avoir des plus gros paiements. Puis lui, il veut que ton paiement d'hypothèque ne dépasse pas 25 % de tes revenus après impôt. Et je trouve ça très intéressant. Ça fait en sorte qu'on ne peut pas s'endetter outre mesure selon nos revenus pour aller acheter notre résidence principale si on respecte ces deux règles-là. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'accumuler, d'épargner sa mise de fonds pour être en bonne position financière avant d'acheter sa maison. Donc, acheter sa résidence principale, pour moi, ça reste primordial pour s'en aller en direction de l'indépendance financière. Par contre, il faut le faire dans les bonnes conditions. Immeuble à revenu, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui ou non? Est-ce qu'on emprunte pour acheter un immeuble à revenu? Bien là, Dave Ramsey lui dit, fine, j'adore l'immobilier, j'en ai plein, j'en ai personnellement, moi j'adore acheter de l'immobilier. Il dit, par contre, si vous achetez des immeubles à revenus, payez vos immeubles à revenus cash. Eh bien là, j'avoue que je suis un petit peu moins conservateur que Dave Ramsey dans cette optique-là. Je pense que, comme un peu la maison, ça devient quasiment impossible d'acheter des immeubles à revenus. Ça va prendre beaucoup de temps d'accumuler le cash nécessaire pour acheter des immeubles à revenus qu'on paierait cash. Selon moi, il y a aussi une façon d'acheter avec la dette hypothécaire nos immeubles à revenus pour avoir une approche pas aussi conservatrice, évidemment, que si on achetait nos immeubles à revenus cash, mais un petit peu plus risqué et qui va quand même permettre de se développer un parc immobilier. Évidemment, j'irais encore là avec une approche conservatrice, mettre un bon cash down sur chacun de nos immeubles, s'assurer aussi qu'on ne doit pas sortir de l'argent de nos poches pour payer une hypothèque à revenus. Hein? On veut que l'immeuble à revenus qu'on achète couvre en bonne partie, peut-être la totalité des dépenses liées à notre immeuble. Je sais que dans la région de Montréal, dans les grands centres, c'est plus difficile d'avoir des immeubles qui sont rentables parce que les multiples sont plus élevés à ce moment-là. Mais reste que non, j'irai pas jusqu'à payer cash pour mes immeubles à revenus. Je pense que l'utilisation de la dette pour ça, c'est une bonne chose. Ça peut vraiment nous aider à aller encore plus vite vers l'indépendance financière. Et quand même, ça reste de l'immobilier. Ça reste que si on met une bonne mise de fonds, qu'on achète un bon immeuble, ça reste une approche assez conservatrice pour moi de s'en aller vers l'indépendance financière, l'immobilier, étant ce qu'il est bien protégé par notre système financier. J'ai confiance dans ce véhicule-là. Donc, ça fait le tour. Zéro dette. Est-ce qu'on devrait vraiment avoir zéro dette? Ben, la réponse pour conclure, c'est oui, j'aime la philosophie de Dave Ramsey, zéro dette. Je pense que c'est une bonne façon de se forcer à épargner, à regarder nos dépenses. J'irais quand même que jusqu'à par contre, j'irais quand même jusqu'à dire que pour acheter sa résidence principale, on peut se donner un peu plus de lousse. Pour se faire un parc immobilier, on peut quand même aller emprunter un peu avec une approche conservatrice sans nécessairement se mettre dans le trouble. Voilà, j'espère que cet épisode ça aura été intéressant, instructif et je vous invite donc à m'écrire si vous avez des questions ou des commentaires sur le podcast que je viens de faire sur ce contenu. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon cheminement vers l'indépendance financière. Au revoir. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite, hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com, c'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel, à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial, frédéric-lacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.